C'est comme ça que Robespierre invente le culte de la veste pour Milton. On ne sait pas ce que c'est, mais ça remplace Dieu.
Mais je pense que la première domination, c'est justement la domination fictive. Vous citiez tout à l'heure Descartes. Avant l'animal-machine, il y a le corps-machine, c'est-à-dire cette pseudo-domination de la raison ou de l'esprit ou de l'âme sur le corps. À partir du moment où l'homme ramène son corps à une simple enveloppe, à son animalité, où il va redouter son corps, tout ce qui vient du corps, les instincts, toutes les passions, les instincts, tout ce qui vient du corps va être rejeté au profit de l'âme, de l'esprit, de ce qui est spirituel. C'est la première domination. Et moi, j'ai toujours constaté que, chez les philosophes, que l'attitude qu'on avait vis-à-vis du corps était le reflet de l'attitude qu'on avait vis-à-vis de l'animal. Les philosophes qui revalorisent le corps revalorisent l'animal. Les philosophes qui dévalorisent le corps et qui valorisent la raison dévalorisent l'animal, parce que non, pourvu des raisons. La critique de la raison par Nietzsche, au contraire, sa revalorisation du corps, le soi organique, c'est le début d'une déconstruction de cette suprématie de la raison. Je pense que derrière tout ça, c'est la suprématie de la raison. Et on retrouve la suprématie de l'homme, la suprématie de l'homme blanc, la suprématie du mâle, etc. Mais derrière tout ça, il y a la vision du sujet, qui est une vision dualiste depuis l'Antiquité, depuis Platon jusqu'à Descartes et au-delà, malheureusement.
Moi, j'avais une ignorance crasse par rapport à Rousseau, enfin, aux théories de qu'est-ce qui te heurte tant dans la pédagogie de Rousseau et que tu trouves très contraignante et à l'inverse de ce que tu as?
C'est simplement que c'est une pédagogie, c'est une éducation, c'est-à-dire c'est un projet sur l'autre. Et Rousseau fait bien attention à essayer de parer de tous les atours de la bienveillance, etc., etc. En fait, il y a des passages où il révèle vraiment le fond du truc, et c'est il faut grosso modo qu'il soit asservi, qu'il soit sous votre emprise, plus que ne pourraient encore le faire les méthodes traditionnelles de l'éducation. Il y a un passage là-dessus, mais qui est monstrueux, où il dit disposez grosso modo les choses de façon à ce qu'ils soient amenés à faire ce que vous voulez qu'ils fassent sans jamais se rendre compte de l'emprise que vous avez sur nous. Quoi. C'est vraiment un idéal de maîtrise totale. C'est ta chose, l'enfant, tu le produis, alors de façon très manipulatrice. Et c'est vraiment le projet éducatif dans toute sa splendeur, c'est faire de l'autre sa chose, le produire. Alors il s'agit de produire en tant qu'être libre, citoyen, humain, etc. Mais ça, c'est le discours de tous les pédagogues, et de tous les pédagogues en tout cas depuis Rousseau. Et mais dans la pratique, c'est vraiment un processus d'asservissement extrêmement déterminé et totalitaire que souhaite Rousseau. Mon avis, ça se traduit au mieux dans les pédagogies douces, holistes, etc., etc. Il y a ce projet éducatif. Comment l'amener de la façon la plus ancrée dans l'enfant? Ça va dans le sens des travaux de psychologie sociale qui montrent que quand on met quelqu'un dans un système de contraintes, dans un cadre contraignant, mais qu'on lui dit « vas-y, fais ce que tu veux, tu es libre », du coup on invisibilise la contrainte, et la personne va produire ce qu'on attend d'elle, mais en plus en y adhérant, en l'intégrant, en adhérant à ses décisions. On sait aujourd'hui que, par exemple, quand on veut manipuler les gens, il faut surtout leur répéter qu'ils sont libres. Si je mets un pistolet sur la tempe de quelqu'un et tu lui dis « fais ça », la personne va certainement le faire, mais elle n'adhérera pas à ce qu'elle a fait. Elle saura que ça ne vient pas d'elle. Si je mets un dispositif de contrainte sociale autour d'elle et je lui dis ah, est-ce que tu peux faire ça? Mais bon, si tu veux pas le faire, il n'y a pas de problème et tout ça, mais est-ce que ça m'arrangerait, enfin, ou j'aimerais bien, ou je sais pas quoi, si tu peux faire ça, etc. La personne, il y a autant de chances qu'elle le fasse que si je lui mets un flingue sur la tempe, mais en plus de ça, elle va reprendre ça à son compte et l'intégrer, elle va modifier ses actions par la suite bien plus que si je lui mettais le flingue sur la tempe. Et elle va modifier surtout sa façon, son rapport au monde, pour l'adapter à ce qu'elle aura été poussée à faire. Il y a un bouquin qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des humains de gens », qui est assez fondamental là-dessus. Il y a un autre bouquin des mêmes auteurs qui s'appelle « Soumission et idéologie », qui est l'autre versant du même truc, qui est vraiment très intéressant.
Je pense qu'effectivement, ça peut être le danger du rousseauisme, enfin des conseils de Rousseau. Je pense que c'est plus un danger d'une sorte de perversion de ce qu'il dit, plutôt, qui est au contenu, effectivement, peut-être dans certains passages, plutôt que véritablement le but de son éducation. Parce que je pense, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure sur la sanction, la punition, ce que dit Rousseau, qu'au lieu de punir l'enfant, le laisser un petit peu comme s'il apprenait par lui-même. Et quand on apprend tout seul, qu'on soit un homme ou un animal, on tire des leçons de l'expérience. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui va me faire mal. J'en tire la leçon, je ne le referai plus. Ce n'est pas une punition. C'est, je ne sais pas, je touche du feu, ça me brûle. Bon, j'en retire une conséquence, j'en retire une leçon. Et ce que veut essayer de faire Rousseau, c'est faire en sorte que, même si lui, il est là en tant que pédagogue, c'est que l'enfant puisse tirer ses propres leçons de son expérience. Mais du coup, un enfant, il ne va pas forcément connaître plein d'expériences. Donc on va fabriquer, en quelque sorte, des expériences, des fausses expériences, mais qui vont permettre à l'enfant de subir les conséquences de ce qu'il a fait. Mais des conséquences naturelles qui ne sont pas la sanction, qui vient effectivement comme une domination. Mais voilà, si tu fais ça, si tu casses le carreau, le fameux exemple du carreau cassé, si tu casses le carreau, on ne va pas te punir, mais tu vas te rendre compte que tu as froid, que la pluie elle rentre dans la maison, donc tu vas finalement tirer les conséquences. Finalement, ce n'était pas malin de casser le carreau, je vais donc faire attention la prochaine fois. Donc, bien sûr qu'il y a une manipulation, mais la manipulation, elle est plutôt dans le fait de créer les conditions d'une expérience où l'enfant va apprendre par lui-même. Alors, les objections qu'on fait à Rousseau, qu'on fait à Rousseau, c'est vrai que elles sont valables, parce que c'est un risque que ça devienne une manipulation. On fait les mêmes objections, par exemple, quand on parle d'éthologie, quand on parle pour l'animal au lieu de dressage d'éducation éthologique, par exemple pour les chevaux. On refuse le mot de sanction ou de punition, mais on parle de renforcement positif ou de renforcement négatif. Alors effectivement, je me doutais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que je me doutais qu'effectivement, dans la logique de ce que vous disiez, ça peut être mis effectivement dans le même sens. Mais c'est vrai que ça repose sur l'idée que l'animal va percevoir ce qui lui arrive, non pas comme la sanction d'un dominant sur lui, mais plutôt comme une sorte de conséquence logique de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est pareil dans la manipulation. La manipulation, par exemple, si on compare la servitude, on le voit, Étienne de la Boétie, discours sur la servitude volontaire, il montre qu'il y a plusieurs formes de servitude. Il y a celle d'une dictature, d'un tyran, où là, c'est visible. Là, la violence, elle est visible. Puis il y a celle de la démocratie, où là, effectivement, on essaye de persuader. Platon, le premier, critiquait la démocratie à cause de ça. On essaye d'influencer, de persuader, de conditionner, de manipuler. Donc l'autre se croit libre, effectivement. Mais malgré tout, il a quand même la possibilité davantage de résister. Sa possibilité de résister à la manipulation, à mon avis, est plus grande que quand il s'agit d'une coercition physique. On peut pas, mis à part en faisant du conditionnement, je sais pas, en utilisant des substances chimiques, en conditionnant, en programmant totalement quelqu'un, même quand on le voit dans les fictions que le meilleur des mondes a de succès, il y a toujours des personnes qui vont échapper à ce conditionnement, qui vont essayer d'en sortir. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, il y a effectivement, on peut tomber dans la manipulation, tout dépend peut-être de l'intentionnalité quand même.
Mais je pense que c'est ça ce qui différencie le projet éducatif du projet de vivre ensemble en bonne intelligence avec quelqu'un, c'est que tu as un projet sur l'autre, tu as une intentionnalité vis-à-vis de l'autre, tu veux utiliser l'autre à tes fins, lui-même, enfin l'utiliser, c'est pire que l'utiliser d'une autre façon, parce que c'est lui-même l'objectif de l'utilisation que tu en fais. Tu as un projet sur l'autre, tu veux le former, tu veux le modeler. Et évidemment, ça ne peut passer quasiment que par un rapport de domination. Il faut que tu aies le pouvoir pour pouvoir faire ça. Parce que l'autre, il n'y a aucune raison que ses attentes correspondent à tes fantaisies, pas toi, à ton arbitraire. Et c'est d'emblée, en tout cas, quand c'est l'éducation au sens social du terme, c'est un projet d'instrumentalisation de l'autre. Il s'agit de le rendre, d'en faire quelque chose de précis, dans un but précis. Bon, en faire un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui sera soumis aux lois, qui sera acteur de la reproduction du système, etc. etc. Mais ça pourrait être un autre but, ça pourrait en faire un petit révolutionnaire, ça serait toujours un projet éducatif.
Je sais pas. pas, parce que derrière tout ça, chez Rousseau, il y a quand même l'idée que si un enfant n'était pas du tout éduqué, justement, s'il pouvait vivre l'état de nature, ça serait encore mieux. Donc c'est juste un pis-aller en se disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte, dans notre société, d'éviter qu'un enfant devienne pris dans les filets du système et donc être là pour, un peu comme garde-fou.
Parce que la solution, lui, c'est vivre effectivement avec les enfants comme avec des égaux. Alors, dans la mesure où on arrive à faire vivre ça, c'est-à-dire qu'on a tellement intégré l'agisme et la domination adulte que c'est pas évident. Mais de fait, moi je connais des gens qui refusent les rapports de domination et qui refusent les rapports d'éducation et où la vie avec les enfants, c'est effectivement, on vit, puis voilà, il y a des discussions sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Enfin, ça se passe comme avec des adultes à peu près, avec des formes qui sont des formes de détail, des aménagements de détail. Mais en tout cas, il y a le souci de ne pas avoir un projet sur l'autre, effectivement. Et il y a des, alors, j'en ai pas parlé, mais il y a eu des mouvements de lutte de mineurs contre la adulte, il y en a eu plein. Et notamment, il y a un mouvement de lutte qui a existé des années 92 à 2000 et quelques, à Berlin, qui a été un peu dans toute l'Allemagne ensuite, qui s'appelait les Krebs. Et eux ont produit des textes théoriques sur leurs conditions, qui sont super intéressants, dont des textes dont certains sont traduits en français, de critique de l'idée même d'éducation, et c'est des textes qui sont construits, qui sont argumentés, ou des textes sur les histoires de limites, les enfants ont besoin de limites, et tout ça, ils récusent ça, ils parlent de limites défensives, limites offensives, enfin il y a toute une théorisation comme ça. Et ils ont aussi produit des textes sur qu'est-ce que c'est que la vie entre adultes et enfants sur un mode égalitaire. Et c'est, bon, en fait, c'est très simple, hein, c'est à peu près comme quand on est sur un mode égalitaire entre adultes, il y a vraiment un mode égalitaire, c'est prendre en compte, c'est renoncer à tout ce qui est imposition, et ces discussions, et ces respects des décisions de l'autre, etc. Et il y a un texte que malheureusement ils ont dû retirer, que je ne retrouve plus, qui était un texte d'une mère qui avait été convaincue par son enfant sur ce point-là et qui avait changé ses rapports avec ses enfants, elle en avait plusieurs, et qui disait qu'est-ce que ça avait changé dans leur vie, comment, au quotidien, quoi, et comment ça se passait, tout ça. Mais c'est un texte que je ne retrouve plus. Je me rappelle avoir lu il y a des années. Mais eux ont produit donc des textes, dont un certain nombre sont traduits en français, qui vaut le coup de lire. Il y en a qui sont sur le site Enfance Buissonnière. C'est un site qui a été créé par le groupe Enfance Buissonnière, qui est un groupe de réflexion sur les rapports adultes-enfants. Il y a des textes de plein de mondes différents. Il y a des textes de théoriciennes féministes sur les questions de la domination adulte. Il y a des textes de Baudanard, il y a des textes d'enfants, il y a des textes de sociologues, c'est assez variable. Et donc, des traductions de leurs textes. Il y a une brochure qui existe qui s'appelle « Pour l'égalité adulte-enfant », je crois, qui est une compilation de textes de ce groupe-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une situation que tu évoquais pas, mais qui est peut-être provoquée par la société de consommation qui fait semblant, d'une façon bien sûr totalement artificielle, de donner une valeur à l'enfant, de lui donner une sorte de majorité sur le plan de la consommation, parce qu'il est un consommateur beaucoup plus facile à toucher, beaucoup plus facile à influencer que l'adulte, et par l'intermédiaire de l'enfant, pousser les parents à consommer. Et je pense qu'en grande partie, la société de consommation est responsable de cette mutation, qui fait qu'on aboutit parfois à des schémas et des familles où c'est le petit tyran, l'enfant, c'est-à-dire où les parents sont complètement tyrannisés par leur enfant, qui décide ce qu'on va dans le supermarché, ce qu'on va acheter, ce qu'on va mettre dans le caddie, qui décide qu'il va falloir acheter ceci, cela pour Noël, tel cadeau, tel jouet, etc. Et où les parents n'osent plus résister, et où il y a effectivement un rapport de domination, mais qui est celui de l'enfant, mais qui est factice, parce que l'enfant est conditionné par, n'est pas lui-même, est conditionné par la société de consommation, mais moi je vois beaucoup, beaucoup de familles où l'enfant, où les enfants, ou un enfant, est totalement tyrannique vis-à-vis des parents, il n'y a pas du tout de violence familiale de la part des parents sur les enfants, mais c'est plutôt l'inverse, des enfants qui vont crier, qui vont tout casser, qui vont tout saccager, qui vont martyriser, faire du bruit, martyriser leurs parents. Et là, comment est-ce qu'on l'analyse, ça ?
Je sais pas.
Il faut qu'on le prise super la nuit de la télévision.
J'ai jamais vu ça dans des familles égalitaires, enfin qui visaient à l'égalité.
Et non, c'est plus du tout égalitaire, c'est-à-dire qu'au contraire, les parents sont inférieurs à l'enfant, quoi.
Oui, ben, il y a tout un tout un système social et tout qui fait que c'est des rois sans royaume.
Qui sont les premières victimes, ça c'est clair.
Finalement, c'est pas abandonner le projet d'éducation, c'est plutôt laisser l'enfant libre à lui-même, c'est-à-dire qu'on peut donner des points de repère et donner des points d'information sur le monde et sur la relation aux autres et sur la relation à soi sans que ce soit du domaine d'un projet d'éducation en fait, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a des informations dont on a besoin et ne pas donner ces informations. Ces points de repère aux enfants, c'est une forme de négligence parentale qui produit ça. Donc en fait, là, c'est pas un enfant qui est tyrannique, c'est un enfant qui est, entre guillemets, victime de violence par négligence. Enfin, de ce que j'ai observé jusque-là, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment placer l'enfant dans la figure du tyran, puisqu'à un moment donné, dans une interaction, dans une relation, il y a normalement un échange d'informations et que la bienveillance, ça passe aussi par le fait de mettre à disposition les informations et les repères nécessaires.
Moi, je pense que ce genre de situation, ça arrive quand l'enfant ne trouve pas les discussions, les limites un peu naturelles de chacun. Donc, disait Suzanne sur
j'y pensais,
le respect de soi, si un enfant te tape et que tu ne réagis pas, c'est juste pas normal en fait. Et du coup, il va continuer dans des comportements un peu comme ça, dans n'importe quoi, pour comprendre la vie. Enfin, je vois un peu comme ça.
Oui, mais j'y pensais. J'ai pensé effectivement à la remarque de la personne tout à l'heure, effectivement. Quelqu'un qui le laisse empiéter sur la liberté du parent, quoi. C'est-à-dire que c'est respecter la liberté de l'enfant, c'est pas le laisser ne pas respecter ma liberté en tant que parent. Mais je sais pas, je pense quand même qu'il y a la société de consommation derrière qui manipule les enfants pour leur donner des désirs factices qu'ils imposent ensuite aux parents. Je pense sous une forme où on fait semblant de donner de la valeur à l'enfant.
Oui, certainement, on fait ça dans tous les domaines.
Pour moi, la société de consommation, elle manipule les adultes, enfin pas directement les enfants, même
oui.
S'il y a des cas d'âge et tout ça. Mais du coup, ça fait penser que l'enfant n'est pas en âge de signer des contrats en fait, qu'on lui impose et que du coup, si on dit que l'enfant. Des tyrans, avec tout ça, toute cette utilité de consommation ou de surconsommation. Moi, ça me gêne, enfin, la formulation. Tu dis, dans le sens où j'ai le sentiment que c'est pas nous, mais en tant qu'individu, ou en tant qu'enfant, qui sommes responsables de ça, mais que peut-être c'est une responsabilité aussi du parent, des parents, à voir que, en fait, c'est effectivement, c'est une manipulation, mais c'est une manipulation de l'adulte sur quelqu'un qui n'est pas en capacité de voir que c'est une manipulation, en fait. Et du coup, on ne peut pas dire que l'enfant est tyran, enfin, l'enfant, il réagit, en fait, à ce qu'il voit, à ce qu'on lui propose.
C'était pas une critique morale, hein, le mot tyran, c'était descriptif, hein, c'est-à-dire il se comporte comme un tyran. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas sa faute, bien sûr. Mais ça risque d'avoir des conséquences sur l'adulte, c'est-à-dire qu'une fois adulte, s'il continue à se comporter vis-à-vis de son entourage de cette façon-là, parce qu'il a toujours eu l'habitude de commander à tout le monde, ça en fait effectivement un vrai tyran qui peut effectivement tyranniser.
Mais le parent, il a un mois, le parent, il a, enfin, l'adulte, il a un mois. Enfin, s'il dit pas non, s'il sait jamais dire non, enfin, c'est comme un rapport de l'adulte à l'adulte. Enfin, dans le sens où si une personne ne sait pas dire non, et ben, elle se fait bouffer, ben, c'est pareil. Si l'adulte ne sait pas dire non, elle se fait bouffer.
Oui.
Donc, mais du coup, c'est pas l'enfant, entre guillemets, qui est tyran et qui serait plus tyran qu'un adulte. C'est le.
Je veux dire simplement qu'on lui laisse occuper la place de, qui ne devrait pas, peut-être pas exister effectivement, de quelqu'un qui commande et qui décide pour tout le monde. C'est tout. C'était descriptif. Hein. C'est tout. C'était pas une, c'était pas normatif ou moral comme terme.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a des stratégies marketing qui ciblent explicitement les enfants. Je pense notamment à McDonald's qui aménage dans ces restaurants, des piscines à balles en plastique qui donnent gratuitement des ballons gonflables avec la marque dessus. Enfin, tout ça, c'est pas pour être original, quoi. C'est vraiment une stratégie marketing pensée pour cibler les enfants, pour que derrière, ils réclament à leurs parents d'aller là et pas ailleurs, quoi.
Sur le thème de tyran, parce que quand donc il y a quelques années j'avais fait une recherche justement sur le genre dans les jouets pour enfants, où j'avais pu juste observer l'importance du marketing comme outil de manipulation et de ciblage des enfants, qui intervient, je crois que ça commence à moins de 1 an, ça commence à 3 ou 6 non, ça commence à 9 mois. À partir de 9 mois, les publicitaires admettent commencer à cibler les enfants. Bon. Donc ça, c'est un fait, quoi, qu'il y ait une volonté de manipulation des enfants, qui soit ensuite une volonté de manipulation des parents en termes de consommation. C'est un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le teasing, mais c'est un truc comme ça, c'est principe de marketing par harcèlement des enfants sur leurs parents. Et ça a été notamment inventé par McDonald's, en effet. Mais donc, ça c'était un petit détail. C'est sur le terme de tyran. Ça fait écho à une définition, spéciste de l'enfant. Et c'est-à-dire que dans le terme de tyran et de l'enfant roi, il y a cette notion d'enfant qui est un individu de pulsion qu'il faut socialiser pour éviter les débordements. Et parce que c'est quelque chose qui revenait fréquemment dans les entretiens que j'ai faits et qui est historiquement fréquent, en fait, cette enfant pulsionnel, de la même façon qu'on a un animal pulsionnel, c'est-à-dire qui ne vit que dans l'instinct, etc., qu'il faut à tout prix socialiser, c'est-à-dire éduquer, pour éviter les débordements. Alors que, c'est une définition de l'individu qu'on peut interroger, c'est une définition freudienne de l'individu, et qu'ensuite, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est le résultat de négligence, en fait, puisqu'on peut parler à ce moment-là. Oui, c'est le résultat de négligence parentale, donc dans le fait de donner des repères en termes d'interaction humaine, par exemple, ce qui est admissible ou non de faire ou non, enfin, de le faire ou pas, et donc en termes d'information. Et c'est pour ça que vraiment, le terme d'enfant roi et le terme d'enfant tyran, d'un point de vue de la représentation symbolique, il faut vraiment l'interroger, parce que l'analogie entre les enfants et les animaux, elle est constamment faite. Donc, encore une fois, pour reprendre mon terrain, on se rendait bien compte que les figures d'animaux dans les jeux pour enfants, elles sont omniprésentes jusqu'à l'âge de 2 ans, à partir du moment où on commence à faire une distinction genrée et qu'ensuite ces représentations de figures animalières sont présentes chez les femmes, dans le rayon des petites filles, donc encore une fois, le spécisme est présent intrinsèquement dans l'agisme et dans le sexisme, ça se traduit dans les deux, et que du coup, cette notion de, d'individu de pulsion à éduquer particulièrement, c'est les enfants et les femmes ensuite. Et du coup, il faut vraiment, vraiment faire attention aux charges symboliques des termes qu'on emploie, en fait, et le terme d'enfant tyran et le terme d'enfant roi, ben non, c'est pas un enfant tyran ou un enfant roi, c'est un enfant qui est délaissé à un moment donné. Et il faut l'envisager comme tel, et éviter d'utiliser des termes avec une connotation symbolique qui est, aussi bien agiste que spéciste, quoi.
Originellement, le mot tyran n'a pas une connotation négative. Dans l'Antiquité, ça veut simplement dire un roi. Oui, c'est descriptif, hein.
C'est pour ça
que je l'utilisais d'une façon purement descriptive.
Tu dis que ça s'ancre, Adrien, que ça s'ancre dans. Qui a là le. J'ai pas compris ce que tu disais. Ça s'ancre spécifiquement par rapport à l'agisme et au sexisme.
Oui, en fait, c'est-à-dire que.
Comment?
Eh bien, parce que c'est une analogie qui est faite de nature. Donc, les femmes. Un des éléments de l'oppression des femmes, c'est de les présenter comme des êtres de nature. Et par être de nature, justement, on entend être qui ont moins de contrôle d'eux-mêmes, moins de rationalité, qui sont soumis à davantage de considérations biologiques. En fait, l'essentialisation et la biologie, enfin, la définition par nature, c'est quelque chose qui est fréquent dans les oppressions en général. Et donc quelque chose qui est particulièrement attribué aux femmes. Et du coup, les populations qui sont minorisées, oppressées et essentialisées le sont généralement avec des liens qui sont établis entre ces populations et les animaux, puisque les animaux dans une société spéciste sont un petit peu les représentants de la nature. Donc en fait, on se rend bien compte que dans les jeunes enfants, donc en fait, il y a vraiment une distinction de genre qui commence à être faite dans les jouets à partir de l'âge de 2 ans, mais en dessous de 2 ans, toutes les figures d'identification qui sont proposées aux jeunes enfants sont des figures d'identification animale, ou presque. Quand j'ai fait des entretiens sur le sujet, fréquemment, les mêmes termes étaient employés pour décrire les enfants et les animaux, de la même façon que les façons dont on s'adresse aux enfants et aux animaux étaient similaires, avec des petits gazouillis, des trucs comme ça. Enfin, bon, c'est vrai. Il y avait vraiment cette similitude-là. Et ensuite, donc, quand il y a une distinction de genre qui a été faite au sein des jouets, donc là, vraiment, c'est un terrain spécifique, mais ça a fait écho à un certain nombre de lectures à côté, la représentation des figures animales comme figures d'identification, elles étaient présentes chez les femmes, parce que, enfin, dans le rayon des petites filles, où, du coup, il y avait des hybrides humains-animaux qu'il n'y a pas, en fait, du côté des petits garçons. Les petits garçons, ce qu'on leur apprend, c'est, par exemple, c'était des hybrides humains-machines. Et ou alors, s'il y avait une hybridité avec l'animal, ça va être Spider-Man, où il y a appropriation des forces de l'animal, mais pas altération de la nature, en fait, de la définition. Alors que, je sais pas, les sirènes, c'est que des femmes. Et c'est un hybride humain-poisson. Les fées, c'est également une représentation féminine. Et c'est un hybride humain-papillon, je sais pas, c'est des trucs comme ça. Bon, et c'est pour ça qu'en fait, le spécisme, aussi bien au niveau de l'agisme qu'au niveau du sexisme, et la définition par nature, c'est quelque chose qui est constant, en fait, et qu'il faut envisager comme tel. Et bien sûr, je connaissais l'étymologie du mot tyran, mais là, on parle de la société contemporaine et de la façon dont on attribue ce terme à la société contemporaine. Un tyran, un enfant roi, j'ai aussi parlé du terme d'enfant roi comme de terme à éviter. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais en parler. J'ai énormément parlé, j'aimerais bien parler.
Et pour sortir de ces représentations, justement, il me semble qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut supprimer cette suprématie de la raison. C'est-à-dire dire on voit la femme ou on voit l'enfant comme un être pulsionnel, oui, mais étendre ça à l'homme en général. Nous sommes des animaux et nous sommes des êtres pulsionnels. Et assumer ça plutôt que de dire. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette dichotomie, comme si c'était une insulte de voir l'enfant ou la femme comme un être pulsionnel. Oui, on est des êtres pulsionnels, l'homme est un être pulsionnel, et c'est très bien, et on doit l'assumer, plutôt que revenir à cette dichotomie cartésienne de la suprématie de la raison, et toujours cette dévalorisation des pulsions. C'est très bien les pulsions, le corps, c'est très bien.
Je ne sais pas si on peut faire une distinction si nette entre la raison et les pulsions, et avoir une définition unilatérale, soit d'un individu rationnel, soit d'un individu pulsionnel. À titre personnel, je ne suis pas sûre, en fait. Mais bien sûr, il faut remettre en cause la norme-valeur de la rationalité telle qu'elle existe. Ça, c'est une évidence. Après, est-ce que ça veut dire forcément qu'on parle en termes de pulsion? Je ne sais pas non plus.
C'est pas dévalorisant. Parler d'être pulsionnel, ce n'est pas dévalorisant, au contraire.
Enfin, ça
je serais très flattée qu'on me traite d'être pulsionnel.
Ça l'est dans la société contemporaine, avec les normes de valeur de la société contemporaine. Après, en soi, non, bien sûr.
Et une des pulsions, c'est la faim. C'est vrai que moi aussi j'ai faim.
Oui.
Merci.
Merci.